Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici ensemble à nouveau pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Palestine Norwood a répondu à Aedius Raquin. Vous êtes la preuve que l'âme de l'homme l'avertit souvent mieux que cette veilleur en faction sur une colline. Aedius a dit. J'ai également vu que la douceur n'était pas sur vos lèvres. Vous êtes sur la bonne voie. Quoi d'autre? Que le cavalier qui n'a pas de nid s'arrête là où la nuit le surprend. Est-ce tout? Non. Après 2 fois 6 bières, j'ai connu que vous aviez un secret et je ne devrais rien faire pour chercher à le percer. Palestine Northwood s'est tournée vers lui. Ami, tiens-toi au conseil de ton cœur, car nul ne peut être plus fidèle.
Je sais bien, monsieur. Mais même si la sagesse de se taire est la première nécessité pour la vie de l'homme, j'ai encore une question à vous poser.
Cette fois, Palestine dévisagea avec méfiance la créature chétive et misérable qui voulait prendre connaissance de lui et s'approcher au plus près de son être. « Je n'ai rien à te montrer, » dit le marin, en écartant devant lui le demi-cercle de ses longs bras décharnés. Même si j'ai beaucoup amassé au cours de mes voyages, même si j'ai bien des fois forniqué avec la mort. Mais tu peux te fier à ce que tu vois aujourd'hui. J'avance avec les mains tendues sous un grand manteau vide. Le vieux bougue a baissé la tête. Il a marmonné le corps pris par la poigne d'un froid glacial.
Sans doute, monsieur, je comprends. Et mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse.
Ils restèrent un moment immobiles. Ils s'observèrent. C'était un peu comme s'ils attendaient la lune, assis tous deux sur la terre et sur la cendre au bord d'un camp dont le feu soudain viendrait de s'éteindre. Peut-être qu'une sorte d'astre pâle allait se lever entre eux. Aedius pensa à Basel, à la vie forte et battante, au plaisir de boire et manger, aux collines, aux escarpements raboteux, au bondissement des cascades argentées. Il était rompu malgré sa volonté de se concentrer sur les merveilles des champs et des clos qu'il avait souvent fois travaillé d'âge en âge. Il garda ses poings fermés sur ses genoux et plongea ses yeux dans ceux du voyageur. Il savait bien qu'il existe des hommes qui sont vivants, d'autres qui sont morts, que certains sont vrais, d'autres imaginés. Il essaya la prière. L'étranger et lui-même se dévisageaient avec une grande intensité. Mais quand bien même ils bravèrent le silence, leur cœur séchait dans leur poitrine, leurs lèvres restaient arides, ils touchaient aux portes de la mort. Et pas un pour aider l'autre. Puis Aedius s'est souvenu que tout ce qui ment a la bouche fermée. Il a frappé aux portes d'airain, il a envoyé sa parole comme une délivrance, il est sorti des ténèbres.
Il a dit comme si sa voix le faisait entrer à nouveau dans une ville habitée. Il a crié, pour ainsi dire, « Mais monsieur, monsieur, je pense qu'une vie heureuse dure un certain nombre de jours. Alors vous qui tournoyez, retranchez des hommes, perdus dans des errances misérables, dites-moi seulement ce que vous tenez enfermé sous votre casquette de marine. »
L'estropié a répondu, « Une baleine. »
« Oh, ça m'étonne qu'à moitié, » a répondu Aedius. « Mon, personne connaît, mais sous mon chapeau, c'est une grande maison blanche, avec une galerie. »
Le bossu a abaissé ses bras toujours tendus vers Pop Raquin. Il s'est retourné comme s'il renonçait à une petite âme. Le vieux respirait à nouveau. « Merci Seigneur, le Très-Haut venait de le délivrer de sa défaillance passagère. La barre d'appui sur sa poitrine s'était soudain relâchée. Il respirait plus librement. Pour un rien, il aurait chantonné sa recouvrance. » Il a sorti son dentier de sa poche. Quand il a humide toutes ses dents dans sa bouche et en même temps, il a fabriqué un sourire content en direction de l'étranger.
« Fameuse journée, monsieur, » il a dit.
En rebaissant ses manches.
Il a débagagé de l'endroit en marchant droite vers la sortie.
Le bossu s'est retourné pour le suivre des yeux.
Ça fait, le bartender s'est répété encore une fois que malheureusement chaque paroisse a ses bervaucheurs, ses trembleurs, ses bègues et ses estrompiers.
Tandis qu'il traversait la place, Aedius fit un écart.
La bière, ça secouait pas mal dans la colocante du vieux bougre.
Il se mit à réfléchir en essayant de faire passer son bon sens par la fente de raison qui lui restait. Il avait beau se prendre pour une petite âme sur le chemin de la lumière, il comprenait pas bien pourquoi il se sentait fou comme un serpent à sonnette depuis qu'il avait rencontré farouche ferraille Crowley. Il leva la figure vers les nuages. Pour se remettre les idées d'aplomb, il avait une envie de se mettre un grand coup de tête dans le plafond, mais le ciel était trop haut. Sa trame ressemblait à un drapeau sudiste déchiré par la mitraille.
Ça fait, Pop Raquin a marché deux pas de côté, ouais. Ça fait, il est encore entré dans un salon.
Il s'est amarré à la barre chez Cyprien McCauley.
C'est pas grave, je vais m'acheter un petit drink.
Ici, c'était une buvette où vous trouviez des chauvages, des blancs et des nègres. Une place où personne marquait la différence. Elle était fréquentée par une ripopée de soulards qui appréciaient le bon temps et surtout une bonne histoire. Rien que des chambranleurs, des bituriers tous en farine, des gars qui faisaient rang depuis le soleil levé devant une bouteille de country booze.
Aedius ne se considérait pas comme un de ces moutons gris qui endeuillent leur famille en buvant trop.
Bien sûr, un ivrogne qui se tiaque devant les enfants ou fait affront aux prêcheurs parce qu'il est camphré est une déshonorance pour les siens, mais celui qui s'arrête devant l'ostination et la querelle est excusable.
Le vieux bouc se promit donc de tremper ses lèvres dans la mousse d'une bière bien fraîche et de foutre son camp sitôt désaltéré.
Il posa les coudes sur le comptoir. Il rentra la tête dans les épaules, il se secoua d'un rire niais, il leva deux poings pour appeler le commis de la barre.
« Two beers !»
demanda-t-il modestement. Le piquant de la boisson lui fit reprendre contact avec le monde des vivants. Il emplit ses poumons de cette bonne odeur de tabac ambiante. Il continuait à rigoler dans ses mains comme un fafa. Il pensait vaguement à ce salaud de général Butler. Il se pencha vers le sol sans perdre l'équilibre. Il ramassa un mégot à demi calciné et l'alluma.
« Two more beers !»
ordonna-t-il. En dodelinant de la tête. En essayant d'accommoder, il trouva que les types autour de lui avaient l'allure d'une douzaine d'alligators et de quelques coyotes, tous avec les oreilles à l'envers. Ils charriaient de l'air du temps, du prix du coton, qui se vendait pas much, et du bonhomme qu'avait remplacé Sheriff Vaughan.
L'un des crocodiles, avec une tête en bas et une haleine à faire peur, disait à plusieurs coyotes « Ma sœur, Shelvadine, habite à Coulée-Salomon. C'est de là que vient ce fameux Ben Guinée qu'on a mis en place de vieux Vic. Elle dit de lui que c'est un vilain bétail, qu'a pas de défense et guère d'intelligence, même s'il fait l'effet d'une montagne. Au bout de 6 mois qu'elle l'avait marié, ce lourdeau de Guinée a déchiré la couverte. En d'autres mots, il a macorné ma petite sœur pour une pour rien qui passait. Puis c'est un gars, il aime pas bien entendre ronfler les balles à l'autour de son chapeau. Je connais ça. Ça fera un dépouté plus empressé à se peigner les moustaches dans les reflets de ses bottes que d'aller se faire mesurer chez l'Undertaker. »
Tous les coyotes, la tête en bas, s'éclataient de rire. Les coyotes, c'est une espèce qui possède un rire perçant. Ça fait leur bouche avait pris les coins qui tombaient vers le sol. Ça fait Edius a pris peur d'être debout. Il se sentait seul de son sens. Il se voyait comme un chien qui rêve. Après une grande embardée, il s'est dit il fallait qu'il sorte de ce passage, de ce mauvais lieu de perdition. Il a acheté 6 escalins qui font 75 sous sur le comptoir. Il a hollé ses échines loin de ces putains de coyotes qui continuaient leur chant bonoura en tricotant les pattes en l'air. Vitement, il s'est reviré du côté de la rue. « C'est pas grave, je vais me donner une deuxième chance. » Il est parti dans un élan. Il s'est foutu la tête dans l'eau de l'abreuvoir. Quand il a vu l'église à peu près droite, il a fait pirouette dans le bon sens.
Avec misère et humour, il s'en a pris à la carcasse de son corps comme si elle lui appartenait pas. Il l'apostrophait, il tapait sur son estomac comme sur un drum. À coups redoublés, il frappait son garde-manger, il répétait des fois et des fois « Avance, crève, livre-toi au bon Dieu, gros vent, t'es aussi bout de ma patience !»
Puis peu à peu, pour éclaircir le brouet qui chaudronnait dans sa pauvre tête, parti à la Valdrague, il s'est mis à réfléchir. Des idées surnageaient, des hoquets d'intention, des nécessités opiniâtres. Mais l'essentiel de son projet lui était sorti de la mémoire, balayé par l'oubliance de l'alcool.
« Cré, coup de tonnerre, c'est beaucoup fort !» il s'est dit très tracassé. « Qui diable que suis donc venu faire à Bayoun et Piqué ?»
Tout cagou de son amnésie, il a entrepris de voyager 3 fois le tour de la place. Il marchait la tête baissée, les mains derrière le dos. Au bout du 5e viron qu'il pilotait sur le terrain, il a sorti sa racine. Il a couru jeter de l'eau contre un poteau. Il s'est soulagé de 1000 gallons. Une fois le bain des reins bien nettoyé, il planait moins au-dessus de la terre. Il s'est rappelé qu'il devait acheter une musique de bouche, un harmonica, ça toujours, il s'en souvenait, mais aussi des denrées, des affaires plus secrètes, indispensables pour son plan.
Son plan. Sacristie, la liste était dans sa poche. Il aurait qu'à l'attendre au magasinier en entrant dans son échoppe. C'est comme ça que il visa clair la porte d'entrée chez Starbrand et manqua de si peu la dernière marche. « Bonjour, messieurs, » dit-il, en s'étalant.
Mais personne répondit. Il n'était pas assez important.
Tu juges, puis et toi, et quand tu mourras, tu gonds, je les bats enroulés. Je les bats enroulés. Ouais, j'ai pour ma si tu viens, j'aime. Ça veut dire que tu les bats enroulés. Mais reste pas là. Avec un peu ta bouche, si tu veux amuser, tu gagnes pour dépenser ton argent. Les bons temps, oui.
si tu viens, j'ai suffi. Sans rien que tu les vents tourner.
Lectures en liberté. Denis Flagel.
Après la pause musicale, nous revenons au roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Un quart d'heure plus tard, vieux Pop Raquin est ressorti avec son shopping. Un fameux paquetage, il enfermait dans ses bras. Il est passé devant Palestine Northwood, qui boucanait la rue avec sa pipe. Il a grommelé au passage de cette personne ennuyante. « Je suis qu'à moitié surpris de vous retrouver dans le chemin, monsieur, mais je vous demande pourquoi vous me suivez partout où je mets les pieds. » J'étais en train de me poser la même question, vieux, et j'étais tombé sur la réponse que le palais reconnaît à son goût de gibier. Et Dieu a haussé les épaules. C'est à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Là-dessus, vous vous trompez, monsieur, il s'est récrié. Je suis qu'un pauvre vieux homme des bois avec le porte-monnaie raplati et je vais me cingler la ceinture pendant des mois. Du moins, ça, c'était pas une menterie. Pop Raquin s'était mis sur la paille. Il avait fini par trader les articles dont il avait besoin contre des arriérés d'un lot de peaux de bête que le boutiquier lui avait pas payé depuis plus d'un an. Ce salaud-là de Nestor Starbran était un emberneur. Il avait un art commercial de barguiner qui prenait toujours le futur en otage. En autre mot, il reprenait d'une main ce qu'il venait déjà de vendre à mauvais marché avec l'autre. Bien qu'il fût méfié de cette philosophie malhonnête qui obligeait l'habitant à revenir s'endetter, le vieux bougre avait dû laisser la promesse écrite d'un baril de patates et d'un sac de farine maïs à venir sur sa prochaine récolte. Nestor s'y prenait avec une façon chacale de faire des sourires fondants comme des doudoucières. Il vous égossait comme du coton. Pop Raquin avait dégringolé les marches, il est passé à ras du grand bossu sans lui prêter plus d'attention qu'à un plantage de pommettes à cochon. Il a quand même trouvé, c'était passablement curieux, son wagon l'attendait devant la porte. Encore un peu soulard, le vieux bouc s'accrachait à rire. Il a jonglé avec l'idée incomprenable que Tinoir avait dû le suivre dans toute sa bervocherie sans demander conseil. « Je connais, t'es un bon choual, » il a dit à l'animal, « mais qui tu fais pour connaître mes heures de sortie, imbécile ?» Sûr enough, le choual n'a pas répondu. Tinoir était un bétail sage. Il entretenait son opinion qu'une rosse doit prendre soin de son écurie, de sa litière et du maître qui va avec. Edius a commencé à charger son chariot. Il a jeté un coup d'œil vers le ciel. Il a trouvé que les nuages pourpres annonçaient un temps moussailleux pour demain. Une fois tiré sa bâche sur la marchandise, il a allongé le pas pour contourner le wagon. Il a grimpé, hop, sur le site, comme s'il avait attrapé la petite vérole planante. Depuis le temps, Caseline espérait son dad, sûr qu'il allait attraper de grands reproches. Paré pour naviguer sur son embarcation, le vieux bêtiseur a laissé tomber les attelles. Il préférait faire plus confiance à son cheval qu'à lui-même. Après un parlementage où il était question d'une double ration de maïs, le wagonneur a commandé doucement à sa bête. « Ça te ferait pas rien, petit frère, de prendre le bon chemin pour aller chez tante Nadé ?» Le lendemain, il est tombé une petite pluie fine. Les feuilles sont devenues luisantes et propres. Puis 2 heures plus tard, le ciel s'est ouvert profondément et l'averse a pris son galop pour la durée de la semaine. Ça se fait, Popraquin a voyagé jusqu'au camp où il avait laissé farouche ferraille Crowley faire pénitence. Le vieux avait un sac à pite retourné sur les épaules pour protéger de la mouillure. Une raie redingote tissée dans une plante fibreuse que nous autres ici dans les campagnes de la Louisiane appellent « baïonnette espagnole ». À l'intention des personnes avides d'improuver leur éducation, nous peut risquer à dire que la pite est cette verdure pointue qui se tient fièrement droite comme un sable de pirate. En autre mot, il s'agit de la feuille du yucca, plus connue sous l'appellation d'agave au Mexique et en Haïti. Bien entrelacé, ce feuillage sert à tresser un capot végétal qui protège aussi bien contre la mouillasse qu'un sac en jute. Avant d'arriver tout à fait au milieu des hautes herbes, Edius Raquin a crié que c'était lui qu'avançait. Il voulait pas risquer d'être tiré par Crowley. C'est que tout bien calculé, plus d'un grand mois s'était écoulé depuis qu'il l'avait pas visité. Il a trouvé le brigand à l'abri dans sa pacanière. Le grand farouche était après laver sa vaisselle. Même ça lui donnait pas l'air aimable. Le vieux hippe dormait sous la table. C'est contenter le bétail de battre le tambour avec sa queue sur le parquet. Le sacré chien estimait sans doute cette émaillère largement suffisante pour célébrer l'entrée de son maître originel dans la cabane. Après, l'animal a bâillé juste au fond de son gueuloir. Il avait la langue blanche. Ses yeux de bête courante étaient chagrins. Il était enfermé derrière une barrière. Farouche Ferraille a poigné par les hanches le baquet où il avait rincé les écuelles. Il est allé jeter l'eau grasse pas trop loin de l'entrée. Il est revenu trempé par la valasse qui brouillait la ligne des arbres. Il a essuyé le fil de son couteau sur sa cuisse. Il a écarté des gouttes de pluie qui goulinaient dessus ses sourcils. Il a désigné le vieux hippe et il a dit entre ses dents « Ah, depuis ce matin, j'empêche le taillot de sortir. Pauvre coquin. Quand il rentourne de chasser au fond du marais, sa peau est si mouillée qu'elle fume. Ça fait « il infeste like hell ». Maudit jabo, il pue la pourriture. » Popraquin les a regardés tous les deux. Il a bien compris leur misère dans l'humidité du marais. Il a reconnu à mi-voix. Oh, c'est une mauvaise journée avec des petits tourbillons de vent, une bourrée glaciale qui vient du nord. La terre se refroidit. Elle ramasse toute l'eau d'en haut. Il a opiné du chef. Il a montré les affaires coutangeuses qu'il avait barguinées la veille chez Starbrand. Il les avait enfermées dans un baluchon inventé dans un drap noué aux quatre coins. Il a balancé le fardeau, bien en évidence, sur la table à trois pattes. Et il a dit « Il tombe une pluie à faire évader tous les démons, mais sous la nuée se cache un moment idéal pour visiter la maison d'un ami. » J'ai une idée qu'on peut s'asseoir, un homme et une femme, devant l'âtre. Et l'appel d'air frais fait monter le feu dans la cheminée. Farouche Ferraille Crowley a prétendu faire pas tellement attention au parlage du vieux. Il était comme amarré à sa torpeur. Il a passé sa main dans le crin de ses cheveux embrouillés par une nuit d'insomnie. Il s'est mis à regarder dehors par la porte ouverte. Ses yeux voyageaient doucement sur la trame de l'horizon confondu, se perdaient en un endroit où les nuages et la terre se rejoignaient. Une gouttière s'était formée au-dessus de leur tête, crevant d'un coup les feuilles de pacanier entrecroisées pour former un toit, et la pluie du ciel s'écoulait librement dans la pièce. Popraquin a reniflé l'odeur de moisissure. Lentement, il s'est tourné vers une étagère. Il a vu un plat de fruits corrompus, un linge roulé en boule, et ce poisson gris-perle sourd avec des mouches sur les yeux. Il aperçut la façon douceâtre dont la lumière éclairait l'envers de la vie. Elle choisissait le pourrissement, rancissait le bois, usé comme du velours, endormait d'une touffeur sournoise l'humus en décomposition. Par-dedans lui-même, le vieux homme s'est fait l'observation que c'était un moment sans cri d'oiseau, un de ces fameux brins d'éternité qui détressent la corde du temps, rabotent, réduisent à des escopeaux la barrière de discorde et rassemblent les cœurs partagés. Sans un regard pour Crowley, il a avancé son menton sous son nez pour réfléchir plus commodément. Et la durée a passé sous leurs pieds. De l'eau, encore de l'eau, qui faisait son parcours d'eau, inondait le platin jusqu'à leurs pensées, inondait, allait se perdre dans le courant, rejoignait la mer à sa façon, après être devenu l'eau d'une autre rivière, leur appartenait plus, et ainsi de suite la lenteur du temps accompagnait la chanson de leur amitié retrouvée. Sans qu'ils aient eu besoin de réciter un conte, ils étaient l'arbre et la terre. La patience avait coulé entre eux. Farouche Ferraille Crowley a relevé la tête. Il a posé ses yeux clairs sur Edius Raquin, et il a dit enfin sans retenue « Un ami fidèle est un puissant soutien. Vieux, vieux, ce que tu m'as fait découvrir a valeur de trésor. » Edius n'a pas évité son regard, il a répondu « Tel on est, telle est l'amitié qu'on se forge. » Il a ajouté sans détour « Va voir ma fille, Azeline. En elle, tu trouveras le repos. Elle dénouera ses cheveux et pour toi, elle se changera en joie. » Pop Raquin, le vieux homme, a rajusté son sac à pite sur sa caboche. Il a sorti son dentier de sa poche, il a rempli sa bouche avec ses dents, il a ricané. C'était sa politesse. Il a touché son chapeau, comme si là, qu'il n'a pas que ça à faire. « Ce matin, j'ai pas grand temps de m'occuper de toi, l'ouvrage m'attend. Je crois bien que ma femme va sortir aussi sous peu. Elle me prêtera la main pour un clos éloigné. Ça fait, il n'y aura personne à la maison. » Il a fait deux enjambées. « Voyage, fils, laisse le déluge devant la porte. Entre. » Il a désigné le baluchon posé sur la table à trois pattes. Il a viré sans dire autre chose. Voilà, nous avons terminé donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Vautrin que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.